Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je tricote. Je tiens la boutique Le Fil Café à Bayonne, dans le Pays Basque. C'est à la fois une mercerie spécialisée tricot et un salon de thé. Je vis à Bayonne et je suis originaire des Landes, d'où ce petit accent qui m'échappe parfois. Dans ce podcast, je parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte, de près ou de loin. Quand je pose autour de moi la question « Comment as-tu appris à tricoter ?», on me répond le plus souvent « C'est ma grand-mère qui m'a appris ». Eh bien moi aussi, c'est ma grand-mère qui m'a appris. Je m'en souviens très bien, j'étais adolescente, c'était au tout début des années 2000, quand le tricot commençait timidement à revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, ma grand-mère ne tricote plus, alors que moi je n'ai jamais autant tricoté. Elle et mon grand-père vivent en Lorraine, donc j'ai peu souvent l'occasion de les voir. Alors j'ai profité d'un séjour chez eux pour réaliser l'entretien qui va suivre. Ma grand-mère, elle s'appelle Mireille, mais moi je l'appelle Maman Mireille. C'est ma grand-mère maternelle, elle va avoir 90 ans cette année. Et de manière totalement objective, c'est la meilleure grand-mère du monde. Avec elle, on a discuté de laine, de modèles, de méthodes de tricot, et puis de la guerre aussi. Je vous souhaite une très bonne écoute en sa compagnie. Donc c'est toi qui m'as appris à tricoter, est-ce que tu t'en rappelles ?
J'avoue que non, mais c'est fort possible.
Si, moi je me rappelle très bien que j'étais sur le canapé du bureau et tu t'es demandé de me montrer la maille en droit et la maille en vert, et puis tu m'as montré comment monter les mailles d'abord.
Oui.
Avec ta manière, alors ta manière de monter les mailles, je ne sais pas si tu vois.
Ah oui, tricote, ça tricote le premier rang finalement.
Oui, voilà.
Le rang de base.
C'est ça, et alors moi, il n'y a personne autour de moi qui connaît cette méthode-là.
Qui connaissait ça, alors, monter les mailles avec le pouce,
voilà,
comme ça.
Voilà, et alors tout le monde fait comme ça, puis moi je suis la seule qui fait différemment finalement. Mais alors je dis toujours, c'est comme ça que ma grand-mère m'a appris. Alors du coup, c'est celle que je connais le mieux maintenant, parce que c'est celle que je fais à chaque fois.
Et en fait, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter comme ça. Et elle m'a appris aussi à tricoter à la limousine. En Lorraine, on tricote avec les aiguilles sous le bras, bien maintenues sous le bras,
avec les aiguilles
contre soi. Et maman tricotait avec les aiguilles devant elle. Ça me paraissait
Mais alors, comment elle fait ? Parce que... Elle avait le fil dans la main droite,
oui,
enroulé autour du doigt, et alors elle lâchait pas ses aiguilles du coup.
Non, elle lâchait pas ses aiguilles.
Et avec son index droit, elle devait faire passer.
Voilà, l'index était toujours levé.
Voilà. Et toi, tu faisais comme ça ?
Moi, je faisais comme ça. J'ai appris comme ça.
Ah oui. Alors moi, je fais pas comme ça, mais j'ai appris parce qu'en fait, j'arrivais pas au début, tu sais, à tenir le fil sur mon index comme ça,
oui,
pour pas lâcher l'aiguille.
C'est un peu difficile.
Voilà,
oui.
Alors je coinçais l'aiguille droite dans ma poche et puis je faisais avec la main, tu vois.
Oui.
Mais ce geste-là avec la main, finalement, ça me fait mal à l'épaule à force de. Parce que tu bouges tout le bras.
C'est certain, oui.
Donc j'ai appris une autre méthode où je tricote avec le fil dans la main gauche.
Oui.
J'enroule le fil sur mon index gauche et avec mon aiguille droite, tu vois, je vais le chercher comme ça.
Ah,
et c'est plus confortable et là, je ne lâche pas mes aiguilles.
Alors ça, c'est curieux parce que ça me fait penser à la méthode allemande. Les Allemandes tricotent avec la laine dans l'index gauche.
Ah ben, ça doit être ça. Toi, tu dis qu'on tricotait même différemment selon les régions, en fait.
Oui, moi, je pense aussi. Alors ici, en Lorraine, on avait les deux aiguilles comme ça. Et puis chaque fois, elle faisait ce mouvement avec la main. Tandis que maman, elle m'avait appris à tenir mes aiguilles comme ça. Et puis, il y avait que l'index qui bougeait.
D'accord. C'est elle qui t'a appris à tricoter.
C'est maman qui m'a appris.
Mais parce que tu lui as demandé ou parce qu'il fallait que tu saches ?
Là, tu sais, ça remonte à vraiment très très loin, je n'en sais rien. Mais enfin, je sais que je savais tricoter à l'âge de 10-11 ans. C'est à ce moment-là qu'elle a dû m'apprendre. Parce que j'ai un souvenir, au début de la guerre, j'étais donc dans un lycée parisien et il y avait des classes de couture pour les filles, bien sûr.
Oui.
Et. Comme nous étions en guerre, alors il fallait tricoter pour les pauvres réfugiés.
Ah oui.
Bon, donc on nous faisait faire, j'étais en cinquième, dans des petites classes, des petits vêtements pour de layette pour les réfugiés. Mais ce qui m'avait absolument un peu révolté, c'est qu'on nous avait donné de la laine grise. parce que, enfin, c'était souvent la mentalité de l'époque, il fallait pas que ça soit trop salissant.
Ah oui, voilà. D'accord.
Alors que la layette, pour moi, c'était du bleu pour les garçons et puis du rose pour les filles. Donc, je peux situer ça. Je savais donc tricoter à ce moment-là et j'avais 11-12 ans. Oui, c'est ça.
Et oui, mais alors du coup, toutes les petites filles, en fait, savaient tricoter.
Ah oui, les petites filles apprenaient à tricoter. C'était, oui, c'est vrai. Oui. Et ma mère tricotait beaucoup. On n'avait pas de machine à tricoter à l'époque. Ouais. Alors, elle me tricotait, je ne peux pas dire tous mes vêtements, mais beaucoup de mes vêtements.
Ah oui.
Pullover, jupe, parce que les petites filles ne portaient pas de pantalon.
Ah oui, alors il fallait des bas et des culottes.
Voilà, alors des jupes. Mmh. Ma mère me faisait des jupes un peu à lait, comme ça.
Peu quoi ?
Avec des laits, tu vois, des jupes un peu évasées, comme
ah,
ça.
Ah oui, d'accord.
Voilà, pour que ça soit confortable. Oui. Et alors, les petites filles qui ne connaissaient pas le pantalon, elles portaient des bas. Et ma mère trouvait ça affreux. Les bas pour des petites filles, elle trouvait que c'était moche comme tout. Donc, j'avais des bonnes grosses chaussettes que me tricotait mon arrière-grand-mère, avec des dessins compliqués, mais des grandes chaussettes blanches qui montaient jusqu'au genou.
Ah oui, avec du jacquard, des voilà. Choses comme ça.
Et puis, alors maman me tricotait des culottes que je mettais par-dessus mes culottes de coton. Des culottes au point mousse, je vois encore ces culottes, pour me tenir chaud au ventre. Mais c'est vrai qu'elle tricotait beaucoup.
Ouais, mais elle tricotait quoi ? Elle tricotait pour toi ? Elle tricotait pour elle ? Elle tricotait pour...
Oui, elle se faisait des pulls. Quand elle avait un pull avec des points compliqués, elle s'enfermait dans une pièce et je l'entendais qu'il y avait une maille en droit, un jeté, un trou. Mais oui. Moi, elle me confectionnait tous mes pulls, tous mes gilets.
Où est-ce qu'elle trouvait de la laine ? Comment elle achetait la laine ? Elle l'achetait où ?
Ah ben, dans les merceries.
Ah oui ?
Ah oui, oui.
Mais c'était de la laine qui venait d'où ? De France ?
Oui, je ne me suis jamais beaucoup posé la question, mais c'était des laines qui venaient de France, oui.
Oui, parce qu'il y avait quand même encore une grosse industrie de textiles, des filatures.
Oui, il y en avait dans les Vosges, il y en avait dans le Nord aussi. Ça,
donc on trouvait quand même facilement de la laine de fabrication française.
Alors évidemment, c'était le choix de la couleur, le choix de la douceur de la laine.
Oui, mais elle regardait, est-ce que c'était comme matière ou il n'y avait peut-être pas d'acrylique, si, il y avait déjà de l'acrylique.
Non.
C'était tout le temps de la pure laine.
C'était de la laine, c'était de la pure laine. Ça, c'est...
Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la fabrication de la laine, les grandes marques de France, enfin en France, elles font pas fabriquer en France en fait. Il y a beaucoup de filatures en Italie notamment qui font de la.
Oui.
Mais en France, en fait, il y a plus beaucoup de filatures. Il y a encore, je crois qu'il y a celle de Bergère de France. Il y a Fonty dans la Creuse. Il doit y en avoir deux autres comme ça, mais de taille importante. Quoi. Après, les autres, c'est des toutes petites filatures, c'est des micro-filatures. Mais ça n'existe plus, en fait.
Oui.
On ne fait plus trop. C'est de la laine qui vient de l'étranger et qui est filée à l'étranger.
Mais il y a une grande variété de laine, quand même.
Oui, alors c'est... Mais il y a beaucoup d'acrylique, quand même. On fait beaucoup de fils en acrylique. Parce qu'on dit que c'est d'entretien plus facile, notamment pour les...
Oui, c'est ça. Il est certain qu'autrefois... Il fallait beaucoup de rigueur pour conserver ces lainages, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas les laver comme on lave de l'acrylique.
Et oui, mais alors comment elle faisait pour maman Gisèle, pour te laver tous les pulls et les culottes
Elle les lavait à la main.
Ouais.
Elle les lavait, de toute façon, on n'avait pas de machine à laver les linges à l'époque. Elle lavait ça à la main, elle-même, dans des cuvettes. Elle rinçait plusieurs fois. Elle ne tordait pas. On mettait ça à sécher. À proximité des radiateurs. Oui, c'était ça. Il y avait un entretien, évidemment, plus important que maintenant. Mais il faut dire aussi qu'on se salissait moins parce que les enfants portaient tous des tabliers.
Ah oui. Ah oui, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que pour les nourrissons, toute la layette, c'est vrai que comme c'est souvent des pièces de vêtements qui sont souvent lavées,
Oui. Un bébé, tu fais beaucoup de lessive, voilà, bien parce qu'il se régurgite dessus, il se salit beaucoup. Et la laine, y a de plus en plus de parents qui n'ont pas envie de passer du temps à laver à la main les pièces. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même des vêtements qui sont moins chauds, je trouve.
Ah oui,
et puis de moindre qualité, quoi. L'acrylique, ça ne tient pas aussi bien dans le temps que la laine.
Oui, et puis il doit y avoir des allergies chez certains.
Ah, je sais pas, mais après, puis il y a aussi un côté écolo aussi. Le fait d'avoir toutes ces fibres synthétiques, le nylon, tout ça, c'est pas très écolo en fait. Qu'est-ce que tes vêtements, une fois qu'ils sont usés, troués, tu les jettes à la poubelle et puis ça se dégrade au bout de. Tu vois.
Évidemment. Tandis que de mon temps, on détricotait, on lavait la laine. Et après, on la mettait en écheveau, on la mettait en pelote, et on recommençait à tricoter.
Et tu refaisais autre chose. Oui, j'imagine qu'elle devait des fois détricoter des vêtements trop petits pour toi et te retricoter autre chose.
Oui, oui, avec elle détricotait, puis elle faisait des vêtements. Elle faisait par exemple avec deux pull-over de couleurs différentes. Elle faisait un pull-over rayé ou un damier. Et alors pendant la guerre. On détricotait tout ce qu'on trouvait dans nos armoires.
Ah oui. Bah oui, parce que du coup, on ne devait plus pouvoir acheter de la laine dans les merceries.
On ne pouvait plus acheter de laine. Non, il n'y en avait plus. Non, ça, je me souviens qu'il n'y en avait plus. Et puis, il aurait fallu des bons d'achat, mais on n'en avait pas.
Donc, vous détricotiez les pull-overs, vous les passiez à la vapeur et...
Oui, c'est ça.
Pour retricoter.
On les mettait en écheveau sur une chaise, comme ça, et après les...
À la main, les pelotes, Bon, maintenant, moi, j'ai des appareils pour faire ça, tu vois. J'ai un dévidoir, et puis j'ai un bobinoir, comme ça, que tu tournes une manivelle, et ça enroule une pelote.
Oui.
C'est bien pratique. Et ouais. Oui. Mais alors, à partir de quel moment t'as commencé à te tricoter des vêtements pour toi?
Moi, j'ai commencé à tricoter quand j'étais adolescente, justement, pendant la guerre. Parce que je commençais à être un peu plus coquette. Et alors, l'éventail n'était pas très grand pendant ces années-là, on faisait avec ce qu'on pouvait. Mais si j'ai tricoté pendant ces années-là, j'ai tricoté des pull-overs pour moi. Ouais. Ça, c'est... Ouais.
Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a une autre relation au tricot parce que c'est devenu un loisir aussi. Ça n'a plus tellement cet aspect d'abord utilitaire, tu vois. C'est d'abord un loisir, en fait, un plaisir, etc.
C'est ça.
Et je trouve que les gens ont un rapport aux vêtements tricotés qui ressemble quand même beaucoup à celui du prêt-à-porter et de la mode, où il y a beaucoup de mode dans le tricot. Il y a des créatrices de modèles qui ont le vent en poupe, donc on achète leur modèle parce que c'est le dernier modèle de temps. De telle personne et on achète aussi telle laine parce que c'est
parce qu'il y en a beau dire, ça peut être
différent du prêt-à-porter parce qu'on crée soi-même le vêtement. Je trouve qu'il y a quand même une grosse influence de la mode parce qu'on peut aussi se permettre de consommer beaucoup plus de laine, quoi. Enfin, on a plus les moyens aujourd'hui d'acheter de la laine un peu partout qu'autrefois.
C'est vrai.
Je suis pas sûre qu'aujourd'hui les gens détricotent beaucoup leurs pulls pour en refaire d'autres, tu vois.
Non, certainement pas, ça doit pas exister.
Bon, il y en a qui le font, mais c'est vrai que c'est pas. Et ça, moi je trouve que ça a vraiment changé par rapport à ça, en fait.
Oui.
On tricote plus parce qu'on a besoin d'avoir un pull chaud pour l'hiver, on tricote parce qu'on a envie de se faire plaisir.
Parce qu'on a envie de se faire un vêtement soi-même et puis qu'il soit joli. Mais il y a eu aussi un phénomène à un moment donné, c'était qu'on cherchait beaucoup la laine naturelle. Alors, au hasard des voyages dans une province, s'il y avait un atelier qui vendait ou bien. De la laine naturelle, et on allait volontiers en acheter. Alors, c'était de la laine écrue.
Mais tu parles de ça à quelle époque?
Je ne peux pas les situer, mais je ne sais pas, dans les années 60, 70.
Parce que ça existe de nouveau maintenant.
Ça existe.
Oui, oui, maintenant que les gens ils tricotent, ils consomment de manière générale plus responsable. Je trouve qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à la production de laine française, naturelle, les teintures naturelles, sans solvants, sans produits chimiques.
Très attention,
Et puis surtout, ce qui ce qui comment dire, ce qui les fait beaucoup réfléchir maintenant, c'est le traitement qu'on réserve aux animaux.
Ah oui.
Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu des, quand même des polémiques sur certains traitements, notamment sur les moutons mérinos. Parce qu'il y a des associations comme l'association PETA qui dénoncent des traitements vraiment cruels, qui se passent notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, d'où vient la grosse majorité de la laine mérinos qu'on tricote aujourd'hui, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours mentionné, mais sur les pelotes de laine, en fait, souvent ce qu'on tricote, c'est de la laine mérinos qui vient de ces pays-là. Mmh. Et alors, du coup, pour revenir à toi. Donc, tu as commencé à tricoter pour toi quand tu étais adolescente, et après, qu'est-ce que tu as tricoté? Tu as tricoté pour tes enfants?
J'ai tricoté de la layette, oui. Alors là, avec un grand plaisir. J'ai tricoté de la layette, surtout que c'est tout de même. C'est vite fait, c'est des petits modèles, c'est vite fait.
Et tu te souviens de ce que. Tu te souviens de petits modèles que tu as tricoté pour.
Ah ben oui, je me souviens, j'en ai tricoté pour ta mère, pour vous.
Oui.
Pour vous, et puis j'en ai tricoté les dernières, c'est pour les enfants de Martine.
Ah oui, mais pour tes premiers enfants, où est-ce que tu trouvais des modèles de layettes?
Ah oui, il y avait des magazines de tricot. Hein.
C'était, d'ailleurs, c'était quoi?
Modes et Travaux.
Ah, Modes et Travaux.
Il y avait toujours,
ça existait déjà.
Une grande rubrique d'ouvrages tricotés. Ma mère l'achetait régulièrement et elle trouvait des modèles là-dedans, oui.
Ah oui, d'accord.
Oh, et puis on se passait ça avec d'autres.
Mais comment on fait aujourd'hui?
Maintenant, bien sûr.
Ça n'a pas vraiment changé, en fait.
Non, c'était à ce moment-là, j'ai beaucoup tricoté pour...
Et t'as acheté quoi comme marque de laine, tu t'en rappelles?
Oh, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il y avait Bergère de France, effectivement, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je t'avoue que je ne me souviens plus.
Il y avait peut-être Pingouin?
Ah si, voilà, oui, c'est vrai, il y avait Pingouin. Pingouin, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre?
Fildar, mais peut-être Fildar, c'était après.
Ah, Fildar, c'est plus tard.
Ouais.
C'est plus tard, ça.
Les bergers du Nord, non?
Oui, il y en avait qui venaient.
Annie Blatt.
Oui. Ah non, mais Pingouin, oui, c'est vrai, la laine Pingouin, c'était... Non, mais j'en ai acheté beaucoup. Et maman aussi. D'ailleurs, elle avait une amie limousine qui tricotait... Je ne sais pas comment elle arrivait à tricoter autant que ça. Elle avait elle-même trois garçons. Et puis, elle avait une sœur qui avait 7 enfants. Alors, elle tricotait pour tous ses neveux. Et elle a fini par s'acheter une machine.
Une machine à tricoter.
Alors, avec maman, elle parlait beaucoup de tricot. Et puis, elle s'échangeait des modèles. Ça me souvient.
Mais elle avait une machine à tricoter, maman Gisèle?
Ah non, jamais.
Non,
non, non, non. Maman faisait tout... la même.
Et elle tricotait, oui, pour elle, et elle tricotait pour ton père aussi?
Non, 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 elle n'a jamais tricoté pour mon père. Je ne me rappelle pas.
Qu'il ait porté un pull?
Non, on devait lui acheter des pulls. Il faut dire que mon père, c'était assez traditionnel. Il avait toujours une chemise, un petit bouton avec un décol ou des faux cols, et puis par-dessus ça, un gilet.
Ah oui.
Le gilet sans manches.
Ah oui.
Oui, le gilet comme ça. Ou bien alors en hiver, eh bien, il doit avoir un gilet, je ne me souviens plus très bien, oui, une veste. Mon père travaillait avec une blouse, tu sais.
Oui.
Alors en dessous, il fallait qu'il soit à l'aise.
Ah oui, d'accord. Et alors, toi, tu as tricoté pour tes petits-enfants? Pour tous tes petits-enfants?
Ah, j'ai tricoté pour son... Oui, pour des petits-enfants, mais pas... Mais j'ai plutôt tricoté pour mes filles.
Oui.
Pour mes filles et mes... Petites les enfants filles. De mes filles.
Ah oui. Et oui, alors, pendant la guerre, comment ça se passait?
Bah, tu sais, pendant la guerre, moi, j'ai pas vu de bébé autour de moi.
Hein. Oui, non, mais tu tricotais pas pour toi non plus.
Bah, je tricotais avec... je te dis, on détricotait des anciens vêtements et puis on retricotait. Et je me souviens que quand nous étions en Silésie, un jour, il y a un des jeunes gens du STO qui s'est fait arrêter par la Gestapo. Il a été emprisonné. Et j'ai pu obtenir, je ne sais pas trop comment je suis en est arrivé, mais j'ai pu obtenir d'aller le voir avec ma mère en prison. Et il n'avait rien, ce pauvre garçon, il n'avait pas de vêtements chauds. Alors, il m'a dit, oh, j'ai froid. Enfin, bon. Alors, je me rappelle, avec ma mère, on a détricoté un ou deux pulls, je ne sais plus comment on s'y est prise. On lui a tricoté, à nous deux, on a tricoté en vitesse un pull.
Et à deux? C'est-à-dire que vous faisiez chacune une partie?
Oui, une partie. Avec ce qu'on avait, et il y avait une grande partie rose comme ça dans le reste.
Bah ouais, mais enfin, ouais, il n'y a pas le choix.
Et on a pu lui faire parvenir ça. Et... ouais. Ce qu'il y avait aussi, c'est que justement en Silésie, il y avait des Lorrains, des Lorraines qui avaient été qui travaillaient dans une usine une filature, mais de coton.
Ah oui.
Et alors, elles arrivaient à shipper des pelotes de coton. Et nous en avons eu, alors on a tricoté des trucs en coton. Alors, c'est...
Bon, coton, ça ne devait pas vous tenir bien chaud.
C'était du coton assez épais. Je me rappelle avoir. On s'était fait des sacs, tu sais, avec des ronds, comme ça.
Oui.
Deux ronds. Et puis une bande au milieu pour rapprocher les deux ronds, ça faisait un sac.
Et vous tricotiez avec quoi? Quel genre des aiguilles droites?
Ah bah écoute, je me souviens.
Elles étaient en métal, en bois?
Ah non, en métal.
En métal, oui.
Non, en métal. Mais j'avais aussi des aiguilles circulaires.
Oui.
Je me souviens de ça.
Mais tu tricotais avec quoi, avec l'aiguille circulaire?
Écoute, franchement,
des bonnets,
les bonnets. Puis je me demande même si je sais pas.
Des
puis
chaussettes.
Alors, avec le coton, c'était aussi du crochet.
Ah oui, ouais.
On faisait du crochet. Oui, à l'époque j'ai fait beaucoup de crochet. Après j'en ai plus fait du.
Mais vous aviez du matériel sous la main?
Bon, on avait simplement, tu sais, un crochet, c'est vite. Oui, ça, on pouvait trouver, même dans les magasins. Même dans les magasins allemands, on trouvait du matériel comme ça, du matériel de base.
Oui.
Des aiguilles, un crochet, ça se trouvait, ça. Mais ce qu'on trouvait moins, c'était la matière.
Oui.
La matière première. Ça, c'était contingenté, c'était... sur ticket, c'était plus difficile.
Parce qu'aujourd'hui, on tricote beaucoup avec des aiguilles circulaires.
Des
aiguilles circulaires avec des pointes interchangeables.
Oui.
Donc, tu as un câble sur lequel tu visses la bonne taille d'aiguille.
Oui, oui, oui.
Et on tricote beaucoup de choses avec ça, mais pas forcément en rond. Ça peut être à plat, tu vois. Tu fais l'aller-retour comme un tricot classique.
C'est ça, oui.
Et c'est vrai que... c'est beaucoup plus confortable parce que tu as toujours le poids de ton tricot en fait sur les genoux.
C'est ça.
Et bon, après, c'est vrai que la prise en main, elle est pas pareille parce que du coup, tu n'as pas cette grande aiguille là. C'est des petites aiguilles qui font 12 cm de long que tu prends dans tes mains comme ça.
Mais je me souviens que maman, elle tricotait mes culottes, mon enfant, avec une aiguille circulaire.
Elle faisait pas à 4 aiguilles?
Non.
Non?
Non, non.
Parce qu'alors.
Les 4 aiguilles, c'était pour les chaussettes
ou
les gants.
Ah oui, les gants. Oui.
Les gants. Là, je me rappelle avoir tricoté des moufles.
Ouais, alors moi, j'ai du mal à vendre des aiguilles circulaires aux personnes qui ont toujours connu les quatre aiguilles. Moi, j'appelle ça des aiguilles double pointe parce qu'elles sont
deux
pointes. Et parce que moi, je tricote tous aiguilles circulaires, y compris les petits diamètres. Alors en fait, il y a un système où tu sors le câble et puis... tu tricotes en fait une moitié après l'autre parce que tu peux pas tricoter en rond si t'as pas le diamètre de le câble la bonne dimension quoi. Et oui ça étonne beaucoup mais je pense que c'est une méthode qui vient des États-Unis.
Ah, mais tu me montreras.
Ouais, je te montrerai.
Ah, oui, tu me montreras, ouais. Parce que je ne veux pas du tout.
Et oui, parce que du coup, nous, aujourd'hui, en fait, on a, avec Internet, on a accès à tout.
Oui, c'est ça.
Avec tout, on tricote beaucoup production. De modèles en anglais, notamment. Ouais. Beaucoup de, de créatrices outre-Atlantique qui font de très beaux modèles. Et du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités, ben, en fait, que bah, ouais. J'imagine que toi, à ton époque, t'avais pas, quoi.
Non, ça, certainement pas.
tu regardais quoi, mode des travaux, et puis après, t'as regardé, j'imagine, fil d'art, des choses comme ça.
Oui, mais fil d'art, c'est venu beaucoup plus
tard. Mais je sais pas quand c'est apparu, fil d'art. Parce que moi, par exemple, c'est mes premiers contacts avec le tricot, c'était dans les magasins fil d'art. Parce que,
oui.
Mais alors, quand moi, j'ai commencé à tricoter, c'était dans les années 2000. C'était pas le tricot, c'était au fond du magasin, tu vois, c'était d'abord il y avait le prêt-à-porter, puis après tout au fond il y avait quelques casiers avec de la laine et des magazines.
Oui.
Et maintenant ça, je pense que ça a complètement changé. Oui,
puis après ça, les boutiques fil d'art ont proliféré, hein. Il y en avait un peu dans toutes les villes, mais il y en avait une là, vous avez
on n'est pas passé devant, mais à Metz, tu veux dire?
Non, pas à Metz, mais tu sais, il y avait à Autange, ici, dans un village un peu plus loin, il y avait une boutique fil d'art. Et mais si, c'était la dame, elle était d'origine italienne, et ils sont allés s'installer dans les Landes.
Ah, bon.
C'était madame. Oh zut, ta mère le sait, madame.
Il y avait une boutique fil d'art ici, à
Autange.
Oui,
il y avait à Autange.
Ah, oui.
Et elle m'a tricoté des tas de. Des robes pour ma mère.
Tricoter des robes.
Ah oui, elle tricotait des robes. Et maman avait plusieurs robes.
Mais des robes
en tricot.
Des robes comment? Des robes droites comme ça?
Oui, enfin pour maman, tu sais, quand elle était âgée. Hein,
oui.
Et ça lui tenait bien chaud. Elle avait des robes à manches longues qui lui remontaient jusqu'en dessous du genou.
Je savais pas qu'on pouvait tricoter
des robes. Ah si, elle tricotait des robes comme ça. Et à tel point que quand. Après la mort de maman, Monette, ma belle-sœur, m'a demandé si les robes de maman pour sa mère, pour ma belle-mère.
Mm.
Et seulement, ça n'a pas fait long feu parce que, comme ma belle-mère était dans une maison de retraite, ça a été lavé en dépit du bon sens. Et puis,
ah oui, ça n'a pas duré, quoi.
Mais. Je pense que bon, c'était cette personne, son nom m'échappe, qui tricotait ses robes. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait déjà de l'acrylique dans la.
Ah oui.
Tu vois,
d'accord.
Ça facilitait quand même
l'entretien. Oui, oui,
oui. Ah oui, il faisait des robes qui étaient assez jolies d'ailleurs, et puis on brodait dessus des petites croix, des petites fleurs, des petites choses comme ça, pour égayer.
Oui. Mais du coup, tu as appris à tricoter à tes filles aussi?
Ben, j'avais trié, oui, il me semble, moi j'ai dû, je ne me rappelle plus très bien, mais je pense que oui.
Bah, ma mère, elle a tricoté.
Ah oui.
Bah, elle s'y est remise, elle était persuadée qu'elle n'y arriverait pas, mais.
C'est moi ou c'est sa grand-mère, maman Gisèle, qui allait lui apprendre. Puis Brigitte aussi, mais Brigitte, elle préférait le tissage.
Ah oui.
Elle avait un petit métier à tisser et puis elle faisait des tas de trucs, Brigitte, avec ça. Elle s'est fait des ponchos.
Mais peut-être que dans les années 60-70, c'était plus à la mode le tissage que le.
Ah, c'est possible.
Parce qu'il me semble avoir vu dans les vieux magazines de ces années-là des comme des ponchos, oui. Des écharpes tissées, des gilets à franges comme ça.
Oui, c'est ça. Ben oui.
Ouais. Et tu te souviens pas de leur avoir appris à tricoter?
Oh, je pense que si. Je te dis, il y avait moi et puis il y avait leur grand-mère. On avait quand même beaucoup de relations, beaucoup d'échanges. Elles allaient souvent chez leur grand-mère, c'est possible. Il faudrait leur demander, je ne me souviens plus, tu demanderas ta mère.
Et parmi tes petits-enfants, à part moi, tu as appris à d'autres.
Je ne me rappelle pas avoir appris à Juliette. Non, je ne vois pas très bien. Manon non plus. Elle m'a jamais demandé d'agir.
Manon non, mais je crois que Samuel, il a appris à tricoter. À un moment, il tricotait avec sa mère.
Ah oui?
Oui, je crois qu'il a appris.
Oui.
Et moi, j'ai essayé d'apprendre à Elisa, d'ailleurs, je ne sais pas où elle en est.
Elisa.
Oui, à ma sœur, ouais, j'ai essayé de lui apprendre à tricoter quand j'ai ouvert la boutique.
Oui. Et elle ne savait pas tricoter ?
Je crois que si, elle avait dû essayer déjà
elle
un peu.
Elle avait dû essayer quand même.
Mais elle n'était pas. Elle voulait se faire un châle comme oui. Le mien, là. Je ne sais pas si, du coup, elle a continué. Je ne sais pas, pourquoi je lui demande.
Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas demandé non plus. Mais il y en a une aussi qui tricotait chez nous, c'était ma grand-mère, maman Juliette. Et puis elle faisait du crochet avec de la laine. Elle ouais. faisait des châles.
Ah oui.
Oui. Justement, tu me parles de châles. Elle en a fait pour toutes ses petites filles. Je me souviens.
Elle t'avait fait un châle au crochet ?
Oui, au crochet.
Ouais.
Un grand châle. Je me rappelle, il était noir avec des lignes rouges, vertes, jaunes. Enfin,
ouais. Ouais. Moi, j'aime bien faire des châles au crochet. Mais bon, je ne fais pas beaucoup de châles parce que j'en ai déjà deux. Voire même trois, parce que j'en ai fait un pour le magasin. Je ne sais pas ce que je ferai de tous ces châles.
C'est bien pratique, un châle.
Ah oui, oui, mais c'est tellement pratique que j'en ai un que je trimballe partout. Mais j'ai celui-là, je trouve que je n'ai pas besoin d'en avoir d'autres.
Bien sûr.
Je ne sais pas, j'ai pas compté combien de vêtements je m'étais tricotée, mais il n'y en a pas tant que ça. Bon, bah, écoute, on peut s'arrêter là, hein.
On t'a bien regardé.
Oui.
Merci maman Mireille d'avoir bavardé tricot avec moi. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, sur Facebook ou sur le blog. Laissez-moi des commentaires, racontez-moi votre histoire avec le tricot, qui vous a appris, bref, racontez-moi ce que vous voulez. J'aime bien vous lire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Internet ou dans la vraie vie.